fréquence a été découverte. Le signal s'intensifie. Le message se répand plus rapidement. Pulse.
Radio Pulse.
www.radiopulse.fr.
Pulsation, l'émission qui sent bon, la transpiration. Berk, berk.
Ah bon, ils prennent pas de douche ?
Bonjour, je suis Franck.
Bonsoir, je suis Delphine.
Bienvenue à toi, auditeur, auditrice, dans cette toute nouvelle émission sur les ondes de Radio Pulse.
Pulsation, l'émission qui sent bon, la transpiration.
Dans cette émission, on parlera généralement beaucoup de sport, même si on ne s'interdit rien. Mais on va pas se le cacher, aujourd'hui, c'est focus basket et play-off. Pour cette première, on a fait fort, ma chère Delphine, avec deux invités de choc.
Oui, il s'agit de Faisal Rehnam, donc coach de l'équipe féminine de l'USBD Alençon, qui évolue en NF1. Il est également sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc. Et nous avons également le plaisir de recevoir Latifa Rehnam, coach entre autres de l'équipe masculine de l'USBD Alençon, qui évolue quant à elle en pré-national.
Merci Delphine, nous sommes le lundi 24 avril 2023. On enregistre Pulsation, épisode 1, saison 1. C'est parti! Representing Radio Boss, yeah. Do the swap, everybody stand up. Clap, clap, jump, do the bump, do the bump, do the swap. Everybody stand up. Clap, clap, jump, do the bump, do the bump, do the swap. Bonjour Latifa.
Salut Franck.
Bonjour Faisal.
Bonjour Delphine et Franck, et merci à l'équipe Pulse de nous recevoir sur votre plateau.
Donc dans cette première partie de l'émission, on va s'intéresser à votre parcours, ce qui vous a mené à Alençon, et l'ambition qui vous anime dans le sport, votre passion pour le basket. Bref, pour en apprendre plus sur vos deux, on a demandé à un expert, bon, dans la limite du budget qui nous est alloué, et je donne la main à Delphine pour cette première rubrique.
Donc, première rubrique, la bio de nos invités. Je vais commencer par toi, Latifa. Je me suis servi d'une intelligence un peu artificielle pour essayer de reconstruire ta biographie. Je dois avouer que le résultat est peut-être un peu manque un peu de clarté et de cohérence. Donc je vais te demander de me corriger. Surtout, n'hésite pas à intervenir parce qu'il y a certaines informations qui me semblent un peu curieuses.
Ok, ça marche.
Il est indiqué que tu es né en 1978 à Orléans.
Et non, je suis né en 1984 à Montbéliard, dans le Doubs.
Waouh, effectivement, on est un peu loin d'Orléans, donc ça commence bien. J'ai également lu que tu avais commencé ta carrière de basketteuse professionnelle en 94 dans le club de Bourges Basket.
Ah, j'aurais aimé, mais non, non, non. J'ai jamais été au niveau professionnel, voilà.
Ouais.
J'ai joué au niveau national, mais pas professionnel.
Ouais, je pense qu'il y a tellement de membres de la famille qu'il y a peut-être certaines confusions. Il me semble donc que tu t'es formée en tant qu'entraîneuse, entraîneur, et tu as plusieurs diplômes dans le domaine, c'est possible ?
Oui, 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 j'ai mon diplôme, mon CQP, qui me donne accès, je peux entraîner jusqu'au niveau national 2 féminine et NM3 chez les garçons. Et puis, je suis aussi animateur basket santé à côté.
Ouais. Et donc, tu as bien entraîné les équipes de basket à travers la France. Tu n'as pas débuté à Alençon, il me semble.
Non, 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 j'ai pas débuté à Alençon, non, 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 non.
Alors,
mais où tu as débuté? Voilà.
J'ai commencé à entraîner quand je jouais en National 3 à Beaune.
D'accord.
En Bourgogne. Ouais. J'ai commencé à... Voilà, j'avais 21 ans, 21-22 ans. Je jouais en National 3 et j'entraînais l'école de basket.
Je pense, je crois avoir compris qu'en 2017, tu avais été nommé entraîneur de l'équipe masculine de l'USBD à Alençon. Est-ce que c'est correct cette fois?
Non, c'est pas en 2017. Je suis arrivée en 2019, je crois. Ouais, ouais.
Ok.
Mais oui, je suis arrivée en tant qu'entraîneur sur la prénat d'Alençon. Première expérience en senior, d'ailleurs.
Non, mais ChatGPT, là,
qu'est-ce qu'il fait, là ? C'est très artificiel, mais pas très intelligent. Tu es également en charge de la section sportive basketball au collège Racine à Alençon ?
Ah, ça, c'est bon.
Ça, c'est bon.
Ça, c'est bon. Je suis intervenante. Hein. J'interviens via le comité départemental. Ouais. Et sinon, le responsable, c'est Sébastien Avina.
Il me semble que, comme tu viens de nous l'indiquer, tu es impliqué dans des projets sociaux ou associatifs pour promouvoir l'égalité des genres et l'accessibilité du sport pour tous. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur le sport santé ?
Oui, le sport santé, j'ai passé mon diplôme à Aubenas quand j'étais en Ardèche, entraîneur. Et du coup, j'ai voulu passer le diplôme basket santé parce que je voulais voir autre chose. Et puis, la filière m'intéressait énormément de pouvoir donner accès à tout public, de pouvoir pratiquer le basket, que ce soit avec ou sans compétition. Donc, c'est pour ça que j'ai passé ce diplôme. Et j'interviens donc en maison de retraite. Et je fais également un créneau dans la structure.
Mais écoute, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On va passer à Faisal.
Merci à toi.
Merci, si tu permets. Alors Faisal, je n'ai pas réussi à trouver une date de naissance cohérente. C'est pareil, c'est une catastrophe. Donc tu es né entre 78 et 83. Et en France, mais alors où
Bah absolument. Absolument, tes recherches elles sont bonnes.
Ouais.
Écoute, je suis né en 1981, j'ai 42 ans aujourd'hui. Et je suis né dans le département du Doubs.
D'accord.
Comme ma frangine, on est 5 enfants à être nés dans le Doubs, dans le pays de la saucisse.
Il est indiqué que tu as commencé une carrière de joueur professionnel à jouer les tours en 2002.
Alors, jouer les tours, j'étais encore dans l'apprentissage et en 2002, d'accord, j'étais déjà parti. En fait, je vais brièvement te reprendre.
Ouais, parce que je crois que là.
La modeste. La modeste historique de mon parcours de joueur.
S'il te plaît.
J'ai démarré le basket en 93-14 à la Dea Blois, là où notamment on a tous démarré, que ce soit mon frangin, que c'est lui qui nous a inspiré et qui nous a mis sur cette voie-là, moi et Tassim Renam qui est coach à Chartres en NM1, de ce fait-là, Latifa et Kautar nous ont suivis, moi j'ai suivi la voie de mon frangin. Très vite, j'ai été au Pôle Esports de Tours, parmi les 10 meilleurs joueurs de ma génération dans la région, la Ligue du Centre, du Val-d'Oise, et chez un formateur historique et performant, Frédéric Crapez, qui est entraîneur national jusqu'à aujourd'hui, qui est sur l'équipe de France U18. Et par la suite, j'ai été en présélection équipe de France cadet, génération 81. Où il y avait des joueurs qui ont fait carrière par la suite, hein, Pacelis Morland, Flo Pietrus, Tony Parker qui est arrivé notamment juste avant le championnat d'Europe, qui a mis tout le monde d'accord avec un an d'avance. Okay. Et par la suite, moi j'ai eu l'opportunité de signer à Chalon-sur-Saône, qui accédait en Pro A. Donc j'ai signé là-bas en tant que stagiaire pro sur les espoirs. Et très vite, je me suis aperçu que le niveau de la Pro A était très difficile. Surtout sur mon poste, il y a beaucoup de joueurs étrangers et de joueurs français athlétiques qui arrivaient. Ce n'était pas dans mes qualités. Donc j'ai fait le choix d'aller à Hyères-Toulon, chez Jean-Louis Borg, en Pro B, où j'ai vraiment vu un autre basket, une autre philosophie, une philosophie défensive. Et je pense que je me suis beaucoup imprégné de ça aujourd'hui, de mon parcours d'entraîneur. Et après, par la suite, j'ai fait différentes équipes, on va dire, pareil, en stagiaire pro, en Pro B, à Saint-Étienne. Et j'ai terminé à Chalon en Champagne, puis un passage à Longueuil en NM1. Et ça s'est arrêté très vite en National 2 à Frontignan, où j'étais coaché par Franck Mériguet, ex-joueur international, qui a joué MSB d'ailleurs. Et ça a arrêté pour des soucis de santé. Et très vite, j'ai bifurqué sur la voie d'éducateur sportif dans un premier temps. Mais ce qui était ma fibre, c'était vraiment le haut niveau et essayer d'y accéder. Et j'ai démarré par des expériences d'assistant coach sur de la NM2, de la NM1, de la Ligue 2 féminine, avec un passage à Charnay. Et j'ai un parcours atypique. Par la suite, j'ai eu l'opportunité d'aller dans le nord du Maroc, à Berkane. Voilà, on pourra y venir par la suite. Ouais. Alors, mon arrivée à Alençon, Delphine, pour être complet, elle s'est faite lors de la saison 2017-2018. Ouais. Je revenais d'une expérience de 4 ans à l'étranger, au Maroc, comme je te disais en amont.
Ouais.
J'ai un parcours atypique à tous les niveaux, parce que quand je suis parti au Maroc, je n'avais pas terminé mes diplômes en France. Et quand je suis revenu, j'ai eu une problématique pour pouvoir entraîner. Donc je me suis remis, parce qu'en fait, j'avais les niveaux, j'avais les diplômes pour entraîner au plus haut niveau ici en France, par le biais de FIBA Afrique, où j'ai eu mes diplômes là-bas. Puis j'ai eu la chance d'être titré aussi en première division à l'étranger. Donc c'est que j'avais les mêmes diplômes et les mêmes prérogatives que certains entraîneurs sur la Betclic Elite, en toute modestie. Mais mon dossier n'a jamais été accepté. La Fédération Française de Basket m'a orienté à repasser mes diplômes en France. Donc chose que j'ai faite avec beaucoup d'humilité. Aujourd'hui, je suis à une année compliquée, hein, entre mon diplôme, la saison, avec Alençon, NF1 et les playoffs dans quelques jours, et la sélection nationale juste à la sortie des playoffs. Mais voilà, j'arrive au bout du DES, le diplôme d'état supérieur, et puis le DEPB, le diplôme d'entraîneur professionnel. Ce sera une fierté de terminer là-dessus, parce que c'est beaucoup d'investissement, de remise en question, mais jamais de doute. Et puis, quand je suis revenu du Maroc, j'ai entraîné deux équipes en parallèle. Un petit village dans le sud de la France qui s'appelle Meillan-sur-Garonne, où on jouait devant 800 personnes à guichet fermé. C'était une superbe expérience. J'ai récupéré cette équipe en cours de saison après 8 journées. C'était classé 8e et on a eu la chance de gagner beaucoup de matchs et de se qualifier pour les playoffs d'accession en NM1. Et on a créé la surprise en battant la Charité, qui était le plus gros budget de National 2, des 4 poules d'NM2. Mais malheureusement, on a gagné le premier match. Et à la fin du premier match, il y a mes dirigeants qui m'annoncent qu'ils ne souhaitent pas monter. Et ça détruit le groupe psychologiquement.
Ah oui, effectivement, un gros coup dur.
Et à ce moment-là, j'ai rencontré un certain Franck Hamon, et qui m'a partagé le projet du club d'Alençon. Je me suis renseigné, moi, de mon côté, sur la ville, sur le club, sur l'environnement, sur le département, où j'ai vu qu'au niveau concurrence, il y avait la place pour créer un véritable engouement et un projet professionnel. Et j'ai fait confiance à Franck, au club d'Alençon, à la ville d'Alençon. Puis, écoute, aujourd'hui, ça donne raison un peu à tout le monde. Voilà comment je me suis retrouvé à Alençon.
Bien, donc on a bien compris que c'était une histoire de famille, le basket, pour vous. C'est venu comme ça. Mais je me demande, moi, puisque je vais partir de mon expérience personnelle, moi, je suis cannais. J'ai grandi à Mondeville, donc le basket, avec le CBC et l'USO Mondeville, j'ai pu en bouffer, comme on dit. J'ai assisté donc à la progression constante, puisque moi, j'étais gamin, hein, dans les années 90, de l'USO Mondeville, qui est parti de régional pour atteindre la ligue féminine. Donc un exemple à suivre, hein, par exemple, pour une équipe comme Alençon. Mais il y a aussi une équipe et un match qui m'a marqué. On a un extrait avec Delphine d'un documentaire qui était passé par la chaîne L'Équipe en 2013 pour les 20 ans d'une certaine victoire en Coupe d'Europe.
50 ans en 55, ce sont ces images-là qui vont rester avec tout le staff de Limoges. Personne ne donnait une chance à Limoges. Limoges a battu le Grand Réal en demi-finale et vient de battre le Benetton Trévise. Et c'est Richard Dacoury, 16 ans de fidélité à Limoges, qui ce soir est récompensé à l'issue d'une carrière exemplaire.
Donc je pense que vous avez reconnu, on parlait bien de Limoges et de la victoire en Coupe d'Europe avec cette fabuleuse interception de Fred Forte, le canet, le regretté Fred Forte, face à Tony Kukoč. Est-ce que vous avez... moi, ce match-là, il m'a vraiment... il m'a scotché, quoi. Il m'a donné tellement d'émotions que le basket s'est resté ancré, quoi. J'avais quoi ? J'avais 11 ans en 93. Donc, est-ce que vous avez une référence comme ça ?
Écoute, ouais, tu soulignes bien, hein, 93, c'est un moment important pour le basket français. Parce qu'aujourd'hui, Limoges, ça reste comme l'Olympique de Marseille au foot. La seule équipe titrée, on va dire, en Euroleague et en Champions League, c'est Coupe d'Europe de l'époque. Le CSP Limoges, qui avait vu l'arrivée d'un coach étranger, avec une méthodologie et une philosophie d'entraînement, et une culture différente de la nôtre, qui a pu marquer, les esprits, dans le bon ou le mauvais côté, hein, mais c'était Bozidar, c'est Bozidar Maljković. On voit que sa fille aujourd'hui, bah, elle a gardé la même culture, elle a gardé la même ligne directrice, elle était championne d'Europe là, il n'y a pas très longtemps avec l'équipe turque du Fener en Euroleague féminine. Il a apporté cette dureté au CSP Limoges, il a fait de joueurs, on va dire, avec peu de talent pour certains, ça leur manquait de respect. Il en a fait des soldats, il a hiérarchisé l'équipe, il a trouvé des stoppeurs défensifs, il a trouvé des joueurs de l'ombre, il a comme Willy Reden, Jimmy Verov, il a fait éclore des véritables profils comme Jim Bilba. Bilba avec 1m98 dans la peinture qui sautait au-dessus de tout le monde. Et il a trouvé un Américain sur qui il a fait un pari, Michael Young, qui a éclaboussé l'Europe de tout son talent, avec deux cadres emblématiques, Richard Dacoury, et puis le défunt Fred Forte, qui a été président par la suite, qui a montré tout son amour à Beaublanc et au club du CSP Limoges. Et vraiment, oui, ça a été un moment marquant du basket français. Je pense que cette période-là, elle a impacté tous les jeunes sur le basket, que ce soit en France. Et juste avant, un an avant, il y a eu aussi les Jeux Olympiques de Barcelone avec la Dream Team de Michael Jordan et puis j'en passe. Et cette époque-là, du moins, moi je l'ai vécu en tant qu'ado, comme toi. Ben, cette époque-là, ouais, complètement, elle nous a emmenés dans l'effet basket. Et puis depuis moi j'en démords plus. Et comme toi aujourd'hui, c'est ce qui nous réunit autour de cette table.
Donc, si je ne me trompe pas, on n'a pas encore abordé la question, mais quel poste, c'était quoi votre poste sur le parquet?
Vas-y, Latifa.
Et tu sais que moi, j'étais une poste 3.
D'accord.
3 shooteuses. Non, mais c'est vrai. Faisal m'a coaché aussi, à une époque, à Frontignan.
Tout à fait.
J'ai joué, puis quand j'étais en National 3, non, j'ai évolué vraiment sur le poste. Je pouvais jouer 3, 4, 5, en fait. Ça dépendait. Voilà.
Donc, tu étais le genre à attaquer la peinture ou à prendre les shoots extérieurs?
Ouais, j'étais plus une shooteuse à 3 points.
Et toi, Faisal?
Alors, moi, j'étais un véritable 2 shooter. Les années ont fait que, bah, aujourd'hui, je suis plus profilé 5. Mais comme je vais te dire,
sans commentaire,
on n'a pas de contrôle sur le temps. Donc non, j'étais vraiment un 2 qui était archené de travail, mais j'avais pas de qualité athlétique, pas de qualité, on va dire, technique dans l'aisance balle en main en termes de bidextry pour jouer les pick and roll. Par contre, oui, c'est ma spécificité, c'était sortir des écrans non porteurs, attraper, shooter, surprendre en transition. Prendre des tirs à 7-8 mètres. Voilà.
C'est le match que j'étais venu voir à Saint-Etienne à l'époque.
Ouais.
Non, mais ce match, moi, il m'a marqué.
Ça m'arrivait de faire 2-3 matchs en espoir. Hein. D'ailleurs, sur des saisons où il y a des garçons comme Mike Gélabal qui évoluent encore à Cholet. Et oui. J'avais le record sur cette année-là en espoir sur la saison 2000-2001. Ça remonte, hein, mais il y a des articles qui peuvent en témoigner, comme Basket News de l'époque. Mais c'est ma petite fierté dans le travail, parce qu'on ne fait pas un 10 sur 13 à 3 points par hasard. Donc j'ai pu rééditer cette performance à 3 reprises. Mais par contre, il ne faut pas oublier que tu as aussi un sport collectif. Tu partages aussi des émotions, tu partages des collaborations. Et sans les gens qui te mettent dans de bonnes dispositions, que ce soit le porteur de balle ou les joueurs, on va dire entre guillemets, qui se sacrifient pour te mettre dans de bonnes dispositions pour shooter. Et puis aussi le coach qui accepte, hein, les prises de risque. C'est ce qui aujourd'hui a nourri, on va dire, ma mentalité et ma philosophie d'entraîneur.
Une autre question, quel type de joueur vous étiez à coacher? Moi, ça m'intéresse. Est-ce que vous étiez les gros pénibles?
Alors, oui. Parce que j'avais un gros caractère. Et je pense que c'est pour ça que je n'ai pas percé un peu plus haut, hein, honnêtement. J'avais un sale caractère. Ouais, ouais. Après, j'étais quelqu'un de très... J'étais une compétitrice. J'étais pour la gagne. Mais c'est vrai que j'avais un sale caractère, moi, je l'avoue.
Je confirme pour l'avoir coaché. Ouais, beaucoup de caractère. Pas beaucoup de remise en question.
Ah.
mais avec des discussions, on va dire, hors cadre basket, elle comprenait des choses pendant 24 heures. Et ouais, bon, c'est déjà bien pendant 24 heures, ça te fait réfléchir.
Ah, mais j'ai évolué. Ouais,
faut faire la veille du match, quoi.
Ouais. C'est pour ça que j'ai arrêté de jouer.
Non, non, moi j'étais plutôt un joueur de coach. J'étais quand même assez cérébral, il fallait que je comprenne les choses. Puis même quand je jouais pas, bah non, jamais de conflit à chaud, jamais parasiter le groupe, ça c'est important. Par contre, je demandais des comptes à mon coach, hein, puis il est aussi là normalement pour nous recevoir. Après, j'ai pas eu que des coachs qui avaient la porte du bureau ouverte. Mais c'est ce qui aussi m'a inspiré aujourd'hui dans mon management, de considérer tout le monde, de considérer la joueuse espoir jusqu'à la joueuse US cadre. Et à un moment donné dans la saison, tu as besoin de tout le monde. Mais j'étais pas un joueur conflictuel, j'avais besoin de comprendre pourquoi on faisait ces choix-là. Et à un moment donné, il est certain qu'on ne peut pas aussi demander des explications toute la saison. Il faut aussi accepter aussi les choix qui sont faits par l'entraîneur. Et si tu n'es plus en adéquation avec la philosophie et le discours du coach et ses choix, bah, il n'y a pas d'autre chose que partir et d'essayer de se relancer ailleurs.
Effectivement. On va donc switcher sur la période entraîneur. Et on a d'ailleurs, puisque c'était une évidence visiblement d'être entraîneur pour vous deux, mais on a une question d'un auditeur, Delphine.
Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'étiez pas entraîneur ?
Ah, la question, qu'elle est bonne. Allez, prenez ça.
Bah moi, si j'étais pas entraîneur, honnêtement, j'avais commencé des études de droit. Donc, je pense que j'aurais été dans cette lignée, j'aurais continué, parce qu'après, j'ai fait le choix de suivre cette voie-là, en fait, de continuer à jouer au basket. Et puis derrière, j'ai fait ma reconversion en tant qu'entraîneur.
Et toi, Faisal ?
Moi, je ne me voyais pas autre part que dans l'environnement sportif. Je me suis beaucoup intéressé, on va dire, à tout ce qui est consultant, journalisme. Je me suis aussi beaucoup intéressé à la fonction d'agent de joueur. Mais sans critiquer cette profession, ce n'était pas les valeurs que je partage aujourd'hui. Mais il en faut.
T'en as un, non ?
Absolument. Absolument. On partage les mêmes valeurs.
Donc voilà.
Donc ça, c'est important. Et par la suite, sinon, aujourd'hui, moi, à quoi j'aspire, c'est coacher au plus haut niveau possible par rapport aux opportunités qu'il pourrait y avoir et puis par rapport au propre travail qu'on est en train de faire pour s'ouvrir les portes, parce que c'est, faut pas oublier que c'est quand même un métier qui est quand même bouché sur le haut niveau et avec beaucoup de concurrence. Mais sinon, dans un deux, on va dire, dans pour préparer, on va dire, l'après coaching, j'aimerais vraiment me diriger vers une carrière de directeur sportif.
Votre métier doit vous apporter beaucoup d'avantages et d'inconvénients, et on se demande avec notre jeune auditeur.
Qu'est-ce que tu préfères et que tu détestes être entraîneur ?
Parfaitement formulé, Faisal.
Bah écoute, on a très bien compris la question, jeune homme. Ce que je préfère, c'est les victoires. Ce que je déteste, c'est dans les victoires, ne pas se remettre en question. Je ne vais pas parler de défaite. C'est le manque de recul dans l'euphorie, le manque d'humilité également, parce que c'est quelque chose, on va dire, qui va motiver les équipes adverses, les attitudes et le message que tu peux véhiculer et renvoyer. Mais c'est toujours ce que je préfère, c'est le travail au quotidien.
Depuis juin 2022, tu es sélectionneur du Maroc. Comment s'est passé le processus de recrutement ? Comment tu as accédé à ce poste ?
Bah, écoute, c'était un peu dans les petits papiers. Hein. J'étais pas le seul sur qui était potentiellement sur les listes de la Fédération Ivoirienne Marocaine de Basket pour le poste de sélectionneur national de l'équipe féminine A. J'ai eu un passage pendant 4 ans au Maroc, avec des résultats positifs. Et je suis arrivé dans un environnement où des coachs pendant 30 ans n'ont pas gagné de titre. Je suis arrivé la première année, j'ai eu la chance de remporter la première Coupe du Trône de l'histoire de la Renaissance sportive de Berkane dans le nord du Maroc. Et jouer une finale de play-off devant 10 000 personnes face au WAC de Casablanca. Et on avait la chance de jouer devant 5 000 personnes à guichet fermé. La Tifa pour en témoigner, et puis l'intelligence également de YouTube. Par contre, ça, sur la gestion émotionnelle, la pression, la relation avec les dirigeants, le public, c'est un facteur important, les fans. Parce que à ces niveaux-là, il y a aussi des copes. Et c'est connaître les différents environnements, les différents interlocuteurs et la construction d'équipe. Hein, parce que j'arrivais dans un championnat que je ne connaissais pas forcément. J'ai eu quelques semaines pour m'en imprégner et construire une équipe. Et ouais, c'était une très belle expérience. Et puis j'ai eu la chance également par la suite, par rapport à nos résultats, de jouer la Coupe arabe des clubs champions, qui a été très constructif avec beaucoup d'expériences accumulées durant cette compétition face à des grands coachs, des grands joueurs, comme Doarik Spencer qui a été MVP. De la pro avec Rouen et qui a fait un passage au MSB, c'est se poser les questions sur l'instant T, comment contrôler un joueur comme ça. Écoute, je pense que ce passage au Maroc, il m'a été aussi bénéfique. Et la volonté, on va dire, de Sa Majesté, Mohamed VI, on le voit bien, hein, qu'avec la nomination aussi de Walid Redraghi sur l'équipe nationale de football et les passages aussi également d'Hervé Renard, qui a donné, on va dire, beaucoup de crédibilité à la formation française, que ce soit Sa Majesté et Mustapha Ourache et Hachem Wahidi, qui est directeur technique national. Leur volonté, c'était s'orienter vers un entraîneur étranger, mais qui est binational, qui a la double nationalité et qui a un réseau également en Europe pour pouvoir détecter, on va dire, les joueuses qui sont en capacité de compléter et puis de construire l'équipe nationale féminine qui n'avait plus vu le jour depuis 2006. Et à l'intérieur de ça, j'ai également une fonction qui est importante pour le projet de développement de la Fédération Royale Marocaine de Basket. C'est également nommer les entraîneurs de U16 jusqu'à la sélection A' sur les entraîneurs, sur le choix des coachs et la détection également des profils, on va dire, les plus jeunes de moins de 16 ans qui évoluent en Europe.
Eh bien, tu as tout dit, hein. Franchement, merci pour les explications. Je pense qu'on en a terminé pour cette première partie. Je laisse la main à Delphine.
Oui, donc une pause musicale sur une suggestion de Latifa, une chanteuse qui s'appelle
Imenes.
Oui,
exactement.
Ok, Pulse.
En fait, t'as tué ma veste, tu l'as enterrée. Si t'as la mémoire courte, je vais tout te rappeler. L'époque où tu faisais du bis, tu prenais pour Franck Lucas. Dans les perquises, elle cachait ton Beretta. Pendant tes bétons, elle t'assumait mieux que ta mère. T'as jamais eu de power fantôme, toi t'as jamais vu Casper. Elle te lavait ton linge, te le ramenait sans aucun pli. Même pour tes co-détenus, elle faisait rentrer du. Vu que c'était ta titulaire, pour toi la mouille et le maillot. C'était ta première dame, mais toi t'es le dernier des salauds. Tu lui faisais de la peine, quand tu faisais des yo-yo. C'est pas comme manger la haine, ce que je te souhaite. Oh yo yo. Elle attendait que tu sois libre pour retrouver sa joie de vivre. T'es dos maintenant tu fuis. Tu l'abandonnes depuis que t'es freedom. T'as changé depuis que t'es freedom. T'as disparu depuis que t'es freedom. T'es plus le même qu'avant t'es freedom. Tu l'as quitté depuis que t'es free. À quel moment donné t'es permis de déconner. Ensemble vous visiez le sommet. Ensemble vous deviez décoller. Pas lui faire vivre les montagnes russes ou lui faire faire une randonnée. Je regrette les fois où je lui disais te pardonner. Dès le début j'aurais mis fin, je lui aurais dû t'abandonner. Y'avait un message subliminal qu'elle a pas décodé. Je lui racontais ton dos pour qu'elle soit là pour t'épauler. C'était ta titulaire, pour toi la mouille et le maillot. C'était ta première dame, mais toi t'es le dernier des salauds. Tu lui faisais de la peine, mais quand tu faisais des yo-yo. C'est pas comme manger la haine, ce que je te souhaite. Oh yo yo. Elle attendait que tu sois libre pour trouver sa joie de vivre. Tes doigts maintenant te fuient, tu l'abandonnes depuis que t'es freedom. T'as changé depuis que t'es freedom. T'as disparu depuis que t'es freedom. T'es plus le même qu'avant d'être freedom. Tu l'as quitté depuis que t'es freedom. Dans ta tête, dans son cœur, elle est prisonnière. Toi dedans, t'étais un autre dehors, t'es devenu bipolaire. Mais je crois que t'es fire, tu fumes trop de ganja. Je crois que t'es fire, tu fumes trop de ganja. Freedom dans sa tête, dans son cœur, elle est prisonnière. Toi dedans, t'étais un autre dehors, t'es devenu bipolaire. Mais je crois que t'es fire, tu fumes trop de ganja. Je crois que t'es fire, tu fumes trop de ganja. Elle attendait que tu sois libre pour retrouver sa joie.
Masters representing Radio Boss.
Do the swamp, everybody stand up. Clap, clap, jump, do the bump, do the bump. Do the swamp, everybody stand up. Clap, clap, jump, do the bump, do the bump. Do the swamp.
On va donc maintenant s'intéresser à l'actualité de l'USBD à Lançon 61. Nous sommes toujours sur Radio Pulse en compagnie de Faisal et Latifa Renam.
Je rappelle que la saison régulière vient de se terminer. Pour un bilan de 19 victoires et 3 défaites, quel regard tu portes sur ce parcours, Faisal ?
Bah écoute, va saluer la performance des filles. Il est simplement exceptionnel. Voilà, il faut aussi valoriser les personnes, les actrices qui se sont battues tout au long de la saison dans ce projet. Surtout que très vite, après la blessure de Joanie, envers qui j'ai une grosse pensée aujourd'hui, qui est toujours en réduc sur Cap Breton. C'est sûr que sa blessure, poste 4 titulaire dans notre projet, bah, elle a fait mal. Par contre, je tiens à saluer aussi l'investissement d'Ito Bounou, qui a vraiment réagi, qui a apporté de véritables ingrédients dans le combat, dans la discipline et la rigueur et l'investissement. Aujourd'hui, c'est un véritable atout. Et puis, je tiens à saluer également le recrutement qu'on a fait par rapport à Jade Phillips. Bah, c'est quelqu'un qui m'a tapé dans l'œil le quatrième match de la saison il y a 2 ans, là, quand elle était avec Audin. Quand je l'ai vu jouer, j'ai vu l'énergie, le cœur qu'elle y mettait, l'investissement, c'est des valeurs que je partage. Et je savais que elle, c'était mon axe prioritaire pour passer un step à Alençon. Par la suite, par rapport au budget que j'avais aussi, et sur toute l'équipe, je suis obligé de faire des choix. J'ai dispatché l'enveloppe qui m'a allouée dans le recrutement aussi par le club de cette manière. J'ai dit, je vais faire le choix de partir sur une jeune pour me libérer une autre enveloppe. Et l'autre jeune, c'est Lisa Cluzeau, ben, qui va être appelée hein, cet été en équipe de France U19, parce que Julien Egloff, l'entraîneur de cette équipe-là, m'a appelé pour me confirmer qu'il prenait Lisa dans les 16. Et on a évoqué un peu ses axes de progression, qui sont ben, le tir extérieur dans les sorties d'écran. Voilà, beaucoup plus de confiance et de régularité par rapport à ça. Et moi, j'ai trouvé que Lisa, émotionnellement, c'est quelqu'un qui est froide. Donc, il y a aussi cet aspect mental pour le haut niveau. C'est quelqu'un en qui je crois vraiment. Je crois beaucoup. Et je me suis pas trompé. Je suis content. Et je suis content aussi qu'elle ait fait le choix de ne pas aller à IF et de rester à Mandeville. Elle a fait confiance au projet d'Alençon et elle a eu confiance en moi. Et je devais aussi lui donner tout mon investissement tout au long de la saison. Et je tiens aussi également à valoriser Alexis Ban, parce que comme je suis en formation aussi par moment dans la saison, tous les mois quasiment, donc le moment où je ne suis pas là, c'est aussi le travail que je lui laisse, cet héritage qui est important à ne pas dissoudre. Et on voit bien qu'il a fait du bon boulot, et ça je tiens à le valoriser aussi, c'est important dans un staff et dans un projet commun. L'éclosion de Brenda Agblemagnon, Brenda qui a quitté la Ligue 2 il y a 3 ans, qui est partie de Montbrison avec pas une très bonne expérience, qui a fait confiance au projet, qui m'a fait confiance, Aujourd'hui, c'est devenu une toute autre joueuse de la division. Je la qualifierais comme la meilleure post 4 française avec justement son homologue qui va être dans l'opposition ce week-end, Fabienne Constant, de gauchère atypique sur le poste 4. Ça va être une véritable opposition. Et aussi, il y a eu le recrutement de Big Essar, qui avait aucune expérience dans le niveau professionnel. Moi, quand j'ai scouté Big Essar à la fac de New Mexico, je savais que c'était la joueuse qu'il me fallait. Et il y a toujours ce point d'interrogation sur l'aspect humain. Mais c'est quelqu'un qui s'est vite acclimaté à l'environnement avec beaucoup d'humilité et de travail au quotidien. Et cet équilibre-là, on va dire, drivé par la patte de Cassandra Vétu, qui connaît ma même philosophie, ma mentalité, ma méthodologie de travail par cœur, avec sa posture de capitaine, avec toutes ses qualités qu'on lui connaît. C'est... Puis Laetitia Baudet, hein, qui est une joueuse de coach, qui accepte son rôle. Et Laetitia, c'est 5 ans passés avec elle, parce que j'ai connu une première accession avec elle, c'est la rescapée.
Oui, en plus, elle a participé aussi à l'accession N3, N2.
Et donc, Laetitia, c'est quelqu'un qui fait partie des murs. C'est quelqu'un qui est au début du projet, qui était avec Cyril Le Picard au départ. Je suis arrivé, ils étaient en NF2, et puis ben, c'est quelqu'un à qui j'ai essayé de redonner goût au basket. Et puis on l'a bien vu sur l'accession NF2, la première saison en NF1 et jusqu'à l'année dernière, parce que c'est quelqu'un qu'il faut aussi féliciter sur son investissement, j'oublie pas. Elle n'est pas professionnelle, c'est l'une des seules joueuses de l'équipe à travailler en parallèle. Elle travaille à l'EHPAD et il faut savoir qu'elle se lève à 6h du mat, qu'elle enchaîne les entraînements jusqu'en début de soirée, les matchs, les week-ends. Et j'espère... Elle l'annoncera, hein, mais elle m'a fait le... Je pense que ça va être la dernière, Laetitia, cette année. Et je sais qu'elle a envie de finir en apothéose. Et nous, on a envie de le faire également pour elle. Et j'espère que le club sera la remercier pour ce qu'elle est en tant que personne avant d'être basketteuse.
Très bien. T'en as déjà un peu parlé dans une interview à Ouest France, je crois, mais à quel moment t'as senti que l'équipe... Il y avait un truc cette année. Est-ce qu'il y a eu un match déclic? Est-ce que... à quel moment? Ou même, tiens, j'ai envie de poser cette question à Latifa. Toi, à quel moment tu t'es dit ça peut le faire cette année?
Moi, je pense dès le premier match. Je les ai suivis à Franconville. Et à l'extérieur, on sait comment c'est dur d'aller chercher des matchs. En plus, c'est le début du championnat. Tu dis que l'équipe encore, elle n'est pas huilée comme le coach voudrait qu'elle soit. Et elles nous ont fait une entame de match, un match où elles ont dominé du début à la fin. Et dans le sens où on a vu... Moi, j'ai vu une équipe, parce que ça fait 4 ans que je suis là, et j'ai vu les différentes équipes. Et là, j'ai vu une équipe avec une force de caractère, une âme, des filles qui se battaient sur le terrain, qui jetaient sur tous les ballons. Et moi d'entrée j'ai dit, sachant que j'ai pas vu les autres équipes, hein, mais cette équipe, il y a vraiment une osmose, une âme, du talent aussi. Et puis je me suis dit, quand la mayonnaise va vraiment prendre et que Faisal va arriver à ce qu'il veut, où il veut arriver, il peut faire de grandes choses avec ce groupe. Mais moi, dès le premier match, j'y ai cru, honnêtement.
Eh bien, moi, coach, je vais te dire quand est-ce que ça m'a marqué. C'est le match à IF où il y a Biguet qui se fait sortir en même pas 5 minutes. Et là, je me dis, ça va mal se passer. Et au final...
Ouais, absolument, Franck, ouais. T'as raison. C'est, là, c'est... Je veux dire, c'est pas l'aspect technico-tactique, hein, qui a fait la différence. Nous, on a fait des choix, c'est sûr. Hein. Il fallait s'adapter par rapport à la situation, sur les différents profils, parce qu'on est vraiment plus de points de fixation par Biguet. Ça arrivait très tôt dans le match, comme tu disais, je crois à la 4e minute, quelque chose comme ça. Et là, j'ai vu qu'un groupe est né, on peut le dire, sur de véritables valeurs, hein, c'est des valeurs mentales, de solidarité, et les filles sont allées chercher ce succès, qui a derrière généré le fil de la saison sur une dynamique positive de victoire et ce qu'on connaît. Mais je dirais que moi, je l'ai senti très vite en cohésion. J'ai vu les échanges qu'elles avaient. Elles étaient capables de s'auto-réguler. Elles étaient capables d'accepter la critique mutuelle et de mettre les égos de côté. Et je te dirais que là où je l'ai vu, c'est en match de prépa face à Chartres à la maison. Quand on prend un écart de 16 points face aujourd'hui aux demi-finalistes d'accession en Ligue féminine, parce que c'était la même équipe qu'il y avait à Chartres, il manquait une joueuse à Chartres, et nous il nous manquait Biguessard, faut pas l'oublier. On est à moins 16, je crois, à 6-7 minutes de la fin, et on va gagner d'un point. Donc là, je me suis dit que ce que tu as vu par la suite face à IF, bah, je veux dire que le groupe a commencé à se créer pendant cette période-là, et ils l'ont appliqué face à IF. Et j'espère que ce week-end, on n'aura pas l'occasion d'être dans cette posture, mais d'être devant.
Oui, c'est ce qu'on espère. La fin de saison a été un peu longue, puisqu'on sait au final, depuis un long moment que l'USBDA participera aux play-offs. Comment on gère cette période, rester impliqué, rester avec les filles concernées? Enfin, voilà, ça n'a pas dû être simple.
Bah non, complètement, hein, parce que dans les têtes, tu sais que les filles, ben, elles ont aussi, elles se projettent déjà vers ces matchs de play-off. T'as toujours aussi l'appréhension de la blessure. Et inconsciemment, tu vas plus jouer, on va dire, avec les mêmes ingrédients.
Donc, un peu sur la réserve.
Quoi, ouais, exactement. D'ailleurs, on l'a senti contre IF à la maison. Mais c'est pas une excuse. Parce que contre IF, c'est pas que les filles ne voulaient pas, c'est qu'elles ne pouvaient pas le faire.
Oui, c'était mentalement, c'était déconnecté.
Mentalement, physiquement, on a manqué de fraîcheur physique et mentale, et j'ai tiré sur les mêmes joueuses tout au long de la saison. C'est bien que ce soit arrivé à ce moment-là. On a eu une explication, tout le groupe, parce qu'il était important de voir quelques images et de se dire les choses comme on a su le faire toute la saison. Et d'ailleurs, on a vu la réaction, hein. Juste derrière, on a été en glette, on a produit... On peut dire par rapport à l'adversaire, mais il faut voir aussi le niveau de jeu qu'on a produit sur la première mi-temps, le QI basket qu'on a su produire dans les choix défensifs qui étaient proposés par Anglet, et l'insolence en termes d'adresse qu'on a eu derrière la ligne des 6-75. 65 points marqués à la mi-temps en NF1, c'est pas tout le monde qui le fait. Maintenant, on est... pour maintenir les gens aussi focus, c'est que sur chaque match, on a défini des objectifs, des axes de travail, pas forcément sur par rapport au play-off, mais se dire ce match-là, on va vouloir générer beaucoup de jeux offensifs, se passer le ballon, être dans les lectures par rapport aux choix qui sont faits sur Jade et Biguet, et sanctionner ces choix-là par un travail de passing game et la prise d'initiative, comme toutes les filles savent le faire, par le tir, par l'attaque des close-out, etc.
Très bien, merci. J'ai contacté monsieur Vincent Lignot et il a une question à te poser.
J'aurais une petite question au coach et au staff du basket, parce qu'en fait, effectivement, ils font une saison extraordinaire. Et d'abord, je voulais les saluer. On croise les doigts, on est avec eux de tout cœur pour cette fin de saison. Je voudrais demander au coach comment il gère les émotions d'après-match et comment il gère sa fatigue, quelle que soit, lui et son plus positif, parce qu'il a une belle saison. Mais il lui arrive sûrement des fois d'avoir des émotions négatives. Et comment il arrive à se ressourcer rapidement pour être prêt en début de semaine pour reprendre en main son groupe.
En tout cas, merci pour ces éloges et le soutien. J'apprécie. Je mettrai une place de côté, je l'invite, s'il souhaite venir voir les deux matchs à domicile.
Bah, je crois qu'il joue toujours à 18h de la N3, donc c'est toujours à moitié.
C'est à toi de faire le nécessaire, Franck.
Ah oui, il faut que je déplace les matchs. Ok, j'y vais.
Bon courage.
Mais pour répondre à la question du coach, je switch vite d'état d'esprit. Je reste très rarement 24 heures dans le désarroi. L'euphorie, je t'en sais encore moins. J'essaie de minimiser aussi la performance, valoriser sur l'instant T mes joueuses, et moi, me sortir de la satisfaction pour toujours essayer de trouver des axes de travail, pas forcément négatifs, mais positifs, à travailler pour faire monter l'équipe en performance et en qualité. Maintenant, émotionnellement, comme j'ai pu te le dire, j'ai eu la chance de connaître par le passé, le Maroc, la Coupe arabe aussi, des clubs champions d'Afrique. Et c'est vraiment des matchs à pression avec le public qui est oppressant, que ce soit le nôtre hein, et celui de l'extérieur, d'équipe opposée. Et la pression des médias, jouer devant 5 000, 10 000 personnes, j'ai réussi à faire un véritable travail sur moi-même, c'était pas facile au début, et ne pas montrer cette pression-là et la rejeter sur le groupe, il n'y a rien de pire. Maintenant, oui, être capable de vite switcher, vite me remettre dans ma ligne conductrice qui est le travail, et puis rester froid.
Bien, donc je crois qu'on arrive à pas loin de la fin de cette émission. Donc on va parler de la mission play-off qui commence ce samedi 29 avril. Ça se termine le 20 mai. Et donc là, je vais faire bosser Latifa. Tiens, tu peux nous rappeler le calendrier, les enjeux, le fonctionnement de cette deuxième phase, le classement initial. J'espère que tu as bossé. Hein.
Bosser, non, j'ai suivi. Donc, Alençon est premier parce qu'il rentre à 2-0. En fait, comme il rentre avec Nantes et ils ont gagné Nantes en aller-retour, donc ils rentrent avec leur 2 victoires. Et je pense, donc Nantes rentre avec 0-2. Et Voiron et Nice rentrent, si je ne me trompe pas, à 1-1.
Avec voilà. Le point d'avérage pour Nice,
si ouais, c'est ça. Du coup.
Le calendrier.
Calendrier. Alors, le 29 avril, Alençon sera à Voiron pour le premier match.
Où est Voiron
Voiron, c'est en Isère, c'est entre Lyon et Grenoble, en fait. Le 6 mai, on reçoit Nice à 20h à l'Ouvrier.
Très bien.
D'accord. Le 13 mai, elles vont à Nice. Et le 20 mai, on reçoit Voiron à 20h à l'Ouvrier.
Je me retourne vers Faisal. À quoi on doit s'attendre avec Voiron et Nice? C'est quel genre d'équipe?
Voiron, c'est une équipe très disciplinée, des deux côtés du terrain, dans les schémas tactiques. À l'image de Quentin Buffard, leur coach. Construite avec une raquette d'expérience, avec Fabienne Constant et Omou Touré, qui ont connu le plus haut niveau.
J'ai joué avec Omou Touré.
D'accord. Ouais,
qui ont connu le plus haut niveau. Et une shooteuse d'élite, gauchère, Dani Williams, américaine, sur le poste 3, shooteuse, un peu de post-up. Moulumba, sur le poste 1, qui a connu une finale d'accession pour la Ligue féminine la saison passée avec Toulouse.
Mmh. Puis elle est montée, du coup.
Bien sûr. Et Laure Mercier et Blanchot. Poste 2-1, la base arrière, le cœur du club. Ça fait, je crois, 8-10 ans qu'elles sont là-bas. Elles quittent le club cet été. Après les play-offs, elles auront à cœur de laisser une véritable image et puis de vouloir terminer sur une accession. Et Lucie Carlier, qui a connu le plus haut niveau, qui est passée également à la glacerie. Poste 4, gauchère, stretch. Vous et Yel, poste 3, 4, athlétique. Voilà un peu les filles que moi j'ai scoutées, sans leur manquer de respect aux autres. Mais c'est 8 joueuses plus 2 joueuses de complément. Maintenant, je sais que c'est une salle et un environnement très chaud, chaudard. Je crois que ça va être 1400 personnes à guichet fermé.
Ah oui.
Les places, elles sont vendues depuis un moment.
D'accord.
Ça va être un environnement hostile, mais j'espère que ça va être fair play. Maintenant, nous, on va se mettre dans notre bulle. On a quelques supporters, des fidèles qui vont faire le déplacement. On ne nous a jamais rien donné cette saison. On ne va pas se commencer à regarder, se trouver d'excuses avant de démarrer l'arbitrage, l'environnement hostile, etc. Ce qui va faire la différence, c'est notre solidarité, comment on va être focus, la gestion émotionnelle. Et le basket, c'est un sport d'adresse. C'est notre faculté à mettre des points.
Je rappelle à nos auditeurs et nos auditrices qu'on est lundi. Le match a lieu samedi. Comment va se dérouler la semaine, Latifa, Faisal? Vous pouvez me donner un peu le programme?
Je vais laisser le coach, hein, c'est lui qui a organisé sa semaine.
Alors moi, je vais rentrer là, après notre entrevue. Je vais au gymnase. Je vais préparer la séance vidéo de cet après-midi. une séance de réactivation, une petite partie physique. Et derrière, on va travailler vraiment tactiquement sur ce qu'on va mettre en place défensivement. Mardi, c'est deux fois, où là, on va travailler que de la défense sur nos principes et voiront qu'est-ce qu'elles vont essayer de mettre en place pour nous mettre en difficulté. Mercredi, on va mettre un peu d'adresse sur les automatismes, les formes de jeu qu'on a l'habitude de répéter, chacune à l'intérieur de ça, mais avec du rythme. Et mercredi soir, on fait venir des arbitres pour faire un match en scrimmage à l'ouvrier, dans l'opposition, pour essayer de se mettre en situation réelle, parce qu'on n'a pas joué depuis Bordeaux, essayer de générer du rythme. Et on part dès jeudi matin sur Voiron pour arriver, on va dire, en milieu d'après-midi, on l'espère, et très vite mettre une séance en fin d'après-midi après une petite séance vidéo.
Oui, et puis le soir, Radio Pulse à 20h.
Écoute, avec plaisir.
Pour l'émission.
Ah, ce sera 20h30 parce que j'aurai pas terminé l'entraînement.
Bon, on va demander au patron de retarder.
Et après, bah, vendredi, c'est... Jeudi soir, après ça, c'est soins. Les soins, tout ce qui est physio, bain froid. Et vendredi matin, un petit réveil musculaire avec un peu de shooting, de la vidéo. Et puis une mise en place technico-tactique sur de la répétition sur le demi-terrain. Et après, on y est. Hein. On y est, hein. C'est samedi, c'est match. Voilà.
On va prendre le temps de parler des joueuses de l'équipe. Et là, je vais encore faire bosser Latifa. Cassandra Vétu, meneuse et capitaine de l'équipe, qu'est-ce qui te vient à l'esprit directement ?
Patronne.
Non, mais je te demande à toi, je ne veux pas mettre en difficulté
le coach. Non.
Il a fermé son micro.
Il déconnait mieux que moi. Hein.
Lisa Cluzeau, qu'est-ce que ça t'inspire ?
Fougue.
Lia Farsi.
Ouais, je vais dire, c'est une joueuse quand même qui lâche rien. Ouais, elle est toujours là, toujours présente, voilà, que ça soit pour son coach, pour l'équipe, voilà. Ouais.
Laetitia Baudet d'hiver.
Gâchette.
Une gâchette.
Ouais.
Jade Phillips.
Ah, c'est elle, c'est l'électron libre de l'équipe pour moi.
Ito Bounou.
Là, je ne vais pas sortir de mots parce que Ito Bounou, elle nous fait une bonne saison. En fait, Ito Bounou, elle joue, je ne sais pas comment dire, mais elle fait rien paraître. C'est une fille qui performe dans ce qu'elle fait, mais...
Je dirais que c'est l'Energizer.
Ouais, l'Energizer, ouais.
L'Energizer, le Factor X, en sortie de
Ouais, Factor X, ouais.
Aruma Conte,
tu sais, moi, quand je l'ai vu jouer, pour moi, c'était... parce qu'elle a joué sur les matchs de prépa, donc ça a été compliqué, en fait, elle n'a pas pu jouer cette année. Mais moi, quand je l'ai vu jouer sur les matchs de prépa, j'ai dit à Faisal, moi, elle me fait penser à Modou. Quand elle part en contre-attaque, c'est exactement les mêmes segments. C'est une joueuse profilée pour le jeu rapide ou le jeu de transi.
Joanie Martin-Goulet.
Je vais dire, quand elle est arrivée ici, entre guillemets, personne ne la connaissait. C'est la révélation, hein, ce qu'elle nous a fait sur ces années NF1. Donc, il ne faut pas l'oublier.
Brenda Agblé-Magnon. On en a déjà un peu parlé avec le coach, mais...
Brenda, moi, je suis admirative du travail qui a été fait, du travail qu'elle produit.
Et on va terminer avec Big Essar.
Je pense que depuis que je suis à Alençon, c'est ma quatrième année. Meilleure intérieure qu'on ait eue, en tout cas, et plus complète. Parce qu'elle est capable de s'écarter. Elle joue dur, puis c'est la dureté, puis elle lâche pas. Elle a beaucoup de fierté et d'ego. Moi, j'aime beaucoup ça chez elle.
On va enchaîner avec quelques questions et là vous me donnez un nom, enfin vous allez comprendre le ouais. Principe avec Delphine. Le coach, tu peux t'abstenir aussi si voilà.
Donc pour connaître un peu mieux les filles, qui est la bible du basket qui sait tout sur tout ?
Moi je dirais Lisa Cluzeau.
Question, qui est la plus perdue sans son téléphone ?
Ah c'est Ito.
Ah ouais. Accro au réseau.
Ah ouais, bah c'est Ito.
Oh, Ito aussi, ça marche. La plus gourmande.
Faut pas suivre aux apparences, mais pour moi, c'est Cassandra Vétu.
Et B.
Ouais.
Surprise. Et la plus drôle de l'équipe, celle qui fait le clown.
Ah, bah c'est Jade. Ah, non, ouais, Jade, elle est...
La plus en retard.
Ah, celle qui est tout le temps en retard. Je suis pas tout le temps aux entraînements, mais... Non, je pense qu'elles sont assidues. Hein. Il y a un code de vie qui est mis en place, donc elles sont à l'heure. Des fois, j'arrive à l'entraînement, il y en a qui sont là 45 minutes avant, hein, pour vous dire.
Est-ce qu'il y en a une quand même qui est un peu tête en l'air, qui oublie un peu ses affaires?
Qui c'est qui perd?
Alors
toujours,
moi, je sais pas, mais moi, je vais dire... Aruma, parce que comme là, j'ai repris la PNF pour que Alexis soit focus sur les playoffs. Parce qu'Aruma, elle est arrivée elle avait oublié ses baskets, donc quand même pour jouer un match
pas
c'est
mal.
Compliqué. Mais heureusement, on est encore sur le parking.
Ouf.
Mais après, Faisal, si tu sais plus, parce que toi,
moi,
t'es plus
proche. Moi, je dirais peut-être en l'air. Je dirais Brenda et No Comment. Si elle écoute, on se comprendra.
On s'arrêtera là.
D'accord. Vous êtes vraiment trop bavards, Faisal et Latifa, parce qu'on avait encore prévu plein de choses et malheureusement, bon, ça sera pour la prochaine fois, on se donne rendez-vous dans un mois.
Bah écoute, nous on se met aussi au niveau de l'interlocuteur, donc c'est un compliment. Bah. Mais avec plaisir, la prochaine fois, absolument, Franck et Delphine.
Ouais, merci à vous en tout cas de nous avoir reçus aujourd'hui.
Avec grand plaisir.
On va aussi remercier donc Radio Pulse, avec Tony, Martin et Eric pour nous avoir ouvert les portes. C'est vraiment très sympa, ils ont adhéré au projet très rapidement. Donc l'objectif, c'est de refaire des émissions donc, avec les sportifs locaux régulièrement. Donc on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures dans Pulsation. En attendant, transpirez bien. Pulse.
Oh, bien des racontes. que là-haut sur la montagne, depuis qu'il s'est greffé une antenne parabolique dans le cul, il capte beaucoup mieux Radio Pulse.
Pulsation, l'émission qui sent bon, la transpiration. Berk, berk.
Ah bon, ils prennent pas de douche ?
Radio Pulse.
www.radiopulse.fr